attention à cette forme d'étude sur la comparaison Algérie Venezuela. Alors moi j'avais fait en fait une j'avais fait en 2015, j'avais soutenu une thèse sur l'économie et l'industrie algérienne sous la direction de Fatiha Talahit à Paris 13. Et j'ai trouvé intéressant en fait une comparaison avec le Venezuela, d'autant que l'Amérique latine m'intéressait de longue date, parce que j'avais fait un mémoire déjà sur l'industrie manufacturière mexicaine il y a longtemps. Et je me suis un peu passionné aussi pour l'Amérique latine, mais après j'ai travaillé sur l'Algérie. Mais bon, les comparaisons avec l'Amérique latine sont fort intéressantes. Et là, c'était une occasion de les engager. Là, je voulais vous montrer. Voilà. Donc, au niveau de cette comparaison, cette comparaison vise particulièrement la trajectoire industrielle des deux pays, en essayant de voir ce qui pouvait les rapprocher ou les différencier. Hein. Je pense que ça demanderait encore un travail supplémentaire, bien sûr. Mais là, on va dire que c'est une première approche. En fait, je suis parti d'une hypothèse assez simple. Hein, donc, comme l'Algérie et le Venezuela disposent tous deux d'hydrocarbures, de ressources en hydrocarbures, et ont conduit à des dates différentes une stratégie d'industrialisation, je me suis posé la question des obstacles qui ont conduit à un processus de ralentissement ou de désindustrialisation pour ces deux pays. Et moi, l'idée, c'était que ça résulterait, cet obstacle à l'industrialisation dans les deux pays, de l'absence d'un soutien politique, de ce qu'on appelle, je présenterai, c'est dans la théorie de Mushtaq Khan, la coalition au pouvoir. C'est des concepts qu'il faut étayer. Coalition au pouvoir au sens où, dans cette coalition, il y aurait des divergences entre conservateurs et réformateurs, au programme de modernisation économique. Alors, il y a aussi l'idée qu'une politique de développement et d'industrialisation qui chercherait à promouvoir le secteur industriel s'appuierait donc dans une approche institutionnelle sur un socle d'institutions qui stimulerait cette politique et par là même stabiliserait la coalition au pouvoir. Il y a cette idée-là aussi à développer. Et la problématique consiste donc à comparer les politiques industrielles du Venezuela et de l'Algérie à l'aune du soutien du pouvoir politique ou de l'obstacle du pouvoir politique au fait de mener ces politiques industrielles à leur fin. Voilà, donc c'est vrai que je pars de concepts qui me permettent d'expliquer ou d'essayer d'éclairer les trajectoires vénézuéliennes et algériennes. Donc je suis parti du concept de « political settlement ». Je vous montrerai la bibliographie après. Donc c'est Mushtaq Khan notamment qui développe c'est un cadre d'analyse hein, plus qu'une théorie. C'est une approche d'économie politique, d'accord. Ça se définit comme un ordre social fondé sur des compromis politiques qui peuvent être favorables ou défavorables au développement économique sur la base d'institutions établies. Alors, la définition que donne Mushtaq Khan, c'est une combinaison de pouvoirs et d'institutions mutuellement compatibles en termes économiques et politiques. Il faut que les deux aillent de pair, en fait, pour que le développement économique se réalise. Alors, je n'ai pas mis tous les schémas, mais l'idée, c'est que la coalition au pouvoir, ou en tout cas le pouvoir politique, s'appuie sur une distribution horizontale, donc au sens physique, hein, l'horizontalité du pouvoir, avec des groupes qui sont, on va dire, insiders et outsiders par rapport au pouvoir. Donc on va dire qu'on a un noyau de pouvoir
Et dans ce noyau de pouvoir, on a des factions, et à l'extérieur de ce noyau, on a une opposition, ou des oppositions. Et ensuite, au niveau vertical, donc il y a aussi une distribution du pouvoir vertical, avec la coalition au pouvoir et sa base. Donc la base serait favorable, ou si elle était défavorable, elle pourrait déstabiliser le socle de la coalition au pouvoir. Donc voilà l'idée donc, pour le political settlement. Alors sinon, je pars aussi d'une approche de l'État défaillant et d'une approche des rentes développée aussi par le même auteur à des dates différentes. Donc là, l'État est fragile au sens où il n'a pas les aptitudes techniques et politiques à produire un cercle vertueux à la fois de transformation sociale et de croissance économique. Donc l'État est fragile d'un point de vue politique lorsqu'il est formé de coalitions au pouvoir, inaptes à créer des institutions qui vont soutenir le processus de développement économique. Donc il y a aussi dans une structure d'État défaillant la recherche de rente. Donc il y a toute une théorie aussi sur la recherche de rente. Alors qui peut, dans la tradition de la recherche de rente, rent seeking en anglais, qui peut produire des effets négatifs, bon, en raison des dépenses budgétaires qui sont allouées à des secteurs dits improductifs, en tout cas duquel résulte un moindre revenu social. Donc ça se traduit par un coût social globalement. Si on parle par exemple du PIB comme étalon de mesure. Alors sinon pour le Venezuela, j'avais essayé de voir, en m'appuyant sur Jonathan D. John, il avait fait aussi une périodisation que je reprends. Il avait travaillé en 2007 là-dessus, je pense que c'était sa thèse. Donc on a le Venezuela des années 1920-1970. Vous avez parlé de 1917 pour la date. Voilà, c'est ça. Donc on a une croissance économique rapide du secteur manufacturier, industriel manufacturier. Donc découverte et exploitation de gisements pétroliers dans les années 1920. Et puis consécutivement politique de diversification et de développement de l'industrie, soutenu par des élites politiques et économiques et par un État interventionniste, en fait. Donc l'économie vénézuélienne connaît ensuite un ralentissement de sa croissance économique et industrielle, notamment marqué dans les années 1980. Et puis après 90 et 2000, on a des fluctuations, mais globalement un ralentissement. Sinon, sur la structure de l'évolution de la politique industrielle au Venezuela. Globalement, le Venezuela connaît plusieurs phases de croissance économique rapide. Donc très tôt, en fait, dans le début du XXe siècle, dans les années 1920, 1940, 1950, donc son PIB progresse à un rythme annuel moyen, je donne un chiffre, pas trop de chiffres, mais de 6,4% sur la période longue 1920-1980. Donc voilà, on a un État interventionniste et qui finance l'industrialisation par des ressources pétrolières. Donc c'est vrai que là, on peut trouver des points de correspondance avec l'Algérie à des périodes différentes. Dans les années 80-90, donc la croissance économique chute fortement. Et entre 1998 et 2003, on identifie une phase de récession économique, déjà au début des années 2000. Donc il faut attendre en fait les années 80 pour voir la croissance manufacturière fortement chuter. La structure donc de l'économie hors hydrocarbures montre une stagnation de la part du secteur manufacturier à 20%. En 1990, et ça va se faire au profit du secteur des services, qui va prendre le devant en pourcentage du PIB. Sinon, le développement de l'industrie vénézuélienne. Donc effectivement, sur la base de recettes pétrolières qui vont permettre de financer l'industrialisation sur les décennies 1960 jusqu'au 1980. Donc cette fiscalité pétrolière a permis de financer la politique de substitution aux importations, bien connue dans beaucoup de pays d'Amérique latine, notamment le Mexique, et de diversification de l'économie. Donc voilà, ça remonte aux années 1920, cette restructuration de l'économie vers l'industrie au détriment du secteur agricole. Donc on a une politique de promotion, de diversification industrielle, en fait, hors secteur pétrolier. Voilà, avec un taux de croissance intéressant dans les années 1950-1960. Alors ensuite, donc la politique industrielle s'est caractérisée dans les années 60-70 par des investissements publics massifs. Donc ça peut être comparé avec ce qui s'est passé dans les années 60-70 en Algérie. Et une concentration industrielle dans les entreprises du secteur public. Donc ça, c'était au début. Donc la croissance du secteur industriel manufacturier a été cependant tirée tant par secteur public que privé. Ça fait une différence avec, une certaine différence avec l'Algérie. Donc la politique interventionniste de l'État s'est caractérisée par un niveau de protection de ces entreprises et de subventions élevées à l'industrie. Voilà, donc après, je suis un peu la chronologie dans les années 70-80. Donc il y a déjà un recul de la part de cet investissement public dans les industries hors hydrocarbures, qui stagne à 9% du PIB. Et l'investissement privé, lui, accroît fortement sa contribution, qui passe à 27% du PIB sur la même période. Donc les années 80 sont clairement une décennie de déclin des investissements industriels dans l'industrie pour l'ensemble de l'économie. Donc voilà, donc on a vraiment une rupture dans les années 80 au Venezuela. Ensuite, si on suit la politique industrielle, donc après 1973 précisément, se fait sur la base du maintien de compromis sociaux. Là, je vais en parler après, donc la partie structure politique au Venezuela et stabilisation du pouvoir politique. Donc en fait, ça allait de pair. La base politique est constituée d'oligarques, de grandes familles d'industriels qui ont bénéficié de ce qu'on appelle en économie de rente, distribué par l'État dans les branches industrielles ciblées. Voilà, donc ça, il faut noter que cette recherche de rente a pu en fait protéger ou permettre le développement de branches non productives par rapport à d'autres qui auraient eu besoin d'investissements à caractère productif. Donc de ce point de vue-là, il y a eu des... C'est la rente au sens négatif du terme qui apparaît ici. Voilà, toujours sur le déclin à partir des années 80, les dépenses publiques consacrées aux investissements ont connu un déclin dans les années 1980-2000. Il y a eu le contre-choc pétrolier aussi qui a affecté l'Algérie et le Venezuela en 1986. Qui a une incidence sur la baisse de la part de la production pétrolière dans la croissance du PIB par habitant. Donc on voit que ça chute fortement. Bon, ça c'est vraiment le contre-choc pétrolier de 86. Alors j'entre un peu plus là dans la partie économie et politique, dans le sens où c'est vrai que cette politique industrielle a favorisé les grandes firmes, le développement des grandes firmes publiques. Et ça a été de pair avec le maintien d'un compromis politique et social conduit par l'État, avec un réseau clientéliste permettant de financer l'industrialisation à travers la distribution de rentes, caractère économique. Donc, ensuite, le secteur public a évidemment connu des difficultés avec la crise des années 80. Et ensuite, dans les années 90-2000, on a une crise du secteur public industriel, une hausse du taux de chômage et une fin du compromis social qui était fondé sur le plein emploi. Donc, le secteur manufacturier, il a connu aussi une crise, un déclin, notamment dans les années 90. Donc, on a un taux de croissance du secteur manufacturier qui décline. Il devient même négatif dans les années 90. Donc, une régression, en fait, du secteur manufacturier industriel. Alors, c'est là que j'entre un peu plus dans le political settlement. On a une hypothèse d'une relation entre pouvoir politique, distribution de rentes et choix de filière industrielle. Donc ça permet en fait de périodiser l'histoire de la politique industrielle au Venezuela. Donc l'aptitude de l'État à mener une politique de développement via la location de rentes dans le secteur manufacturier a connu des périodes. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Allocation de rente incitative.
Oui. Elles sont incitatives. Elles sont à vocation incitative, mais elles peuvent être contre-productives. Ouais. Donc l'idée ici, c'était de dire que ces rentes ont pu avoir des effets positifs ou des effets négatifs suivant les périodes historiques. Voilà, donc là, en fait, c'est la périodisation que j'ai repris de Jonathan Dijon. Vous voyez, 1928 à 1948. Donc là, on a un mouvement politique populiste qui lutte contre le pouvoir dominant d'une classe dirigeante, militaire, propriétaire terrien, commerçant. Alors après, on a la période dite du pacte qui est orienté sur le froid.
Il a dit qu'il ne pouvait pas passer à côté. Je lui ai demandé déjà. Désolé, vous
avez... Non, c'est rien. Oui, il doit faire 10 degrés, là, non?
On dirait le Venezuela avant la crise. C'était le seul à 17 degrés.
Ah bon? C'est vrai.
C'est
vrai ?
Ils ont été à la chaudière, en fait. Si, la chaudière,
mais la climatisation
fraîche ?
Froide ? Non,
c'est froide.
Non, c'est
juste...
Ouais,
ouais, ouais.
Si
vous voulez qu'on laisse la porte ouverte,
d'accord.
Oui.
Ouais.
C'était la clim, on était dans un pays chaud.
Voilà, donc là, en fait, je présente à grands traits une périodisation qui a été faite par Jonathan Dijon, 2007. Et cette périodisation montre, en fait, qu'il y a plusieurs phases de développement économique soutenues par différentes coalitions politiques. Donc, je vous disais, la première période 1928-1948, ensuite 1958-1968, c'est la décennie du pacte démocratique. Je ne sais pas si ça vous dit, ça vous parle.
Disons que la période 58, ça se prolonge jusqu'à 98. Je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui différencie en 68, qu'est-ce qui se passe en 68.
Ouais. Je pense qu'il a essayé de faire un lien.
Le gouvernement de Caldera, c'est aussi un régime de ce pacte.
Pour vous, c'est soit 58-98.
Oui, voilà. Ouais. Et en haut
28-48.
En fait, il y a une période démocratique entre 45 et 48 qui s'appelle le Triennat.
Ouais.
Après, il y a un coup d'État, une dictature pendant 10 ans entre 48 et 58. Et
d'accord.
À 58 commence la période démocratique.
D'accord, le pacte démocratique.
Et la fin de la dictature de Gomez, il a eu une dictature qui était l'une des plus longues de l'Amérique latine entre 1902 et 1936.
D'accord. Donc, du coup, le 28.
Je ne comprends pas pourquoi il est 28, ouais. C'est la génération de 28, c'est la première génération contre Gomez.
Ouais. Alors, est-ce que c'est par rapport à la période de découverte des gisements pétroliers de...
Voilà.
Elle n'est pas purement politique. Voilà. Donc ensuite, 73-93, période d'éclatement du consensus politique, consolidation du régime bipartite opposant gauche et droite. Voilà. Et 93-98, ça marque le déclin du régime bipartite. Et les années 2000, donc voilà la montée des partis populistes radicaux avec l'accession d'Hugo Chavez à la présidence. Voilà, donc après, effectivement, ouais, on peut voir pourquoi. C'est, mais je pense qu'il doit avoir en tête une périodisation économique. Alors, pouvoir politique. Alors, je reviens sur la comparaison avec l'Algérie, puisque on a en fait on a une première période, c'est vrai, 1962-65, après l'indépendance. On a une coalition au pouvoir dirigée par d'anciens militaires et soutenue par le parti unique du FLN. Puis vous avez à côté des partis challenger, outsider. Hein, donc le modèle économique, hein, c'est un modèle d'autogestion. Il y a tout un ensemble de lois votées économiques, de codes des investissements pour éviter la fuite des capitaux à ce moment-là. Donc c'est une période d'instabilité en fait. Donc vous avez trois secteurs dans l'industrie algérienne à ce moment-là, le secteur privé, le secteur mixte et le secteur socialiste autogéré. Alors après, donc, ce qui va se passer, c'est une période qui va se rapprocher avec le développement, une première stratégie d'industrialisation en Algérie, qui est très proche de ce qu'a expérimenté le Venezuela dans les années un peu avant, puisque ça a commencé plus tôt. Hein. Donc là, on est sous le président Wari Boumediene. En Algérie, on a un pouvoir autoritaire qui se renforce et le développement de l'industrie se développe dans les années après 1967 par une série de plans, quadriennaux ou quinquennaux. Voilà, c'est un développement économique auto-centré. Si vous avez une... Je vais peut-être continuer peut-être sur votre... Je ne sais pas si c'est... Je vais peut-être remettre...
Si je peux brancher peut-être mon PC, peut-être que c'est ça.
C'est peut-être que vous êtes assez sympathique.
Peut-être, mais j'avais... une heure et demie d'autonomie.
Oui, c'est la batterie, il marque la rouge.
Si je peux brancher, je prends celle-là.
Ah,
c'est la batterie, oui.
Après cet incident technique.
Non, je pense que ça va le faire. Ouais.
Ah, il faut le relever.
Enfin, juste qu'il se rallume. Oui.
Peut-être que c'est une bêtise en plus de politique
en satinette. Ça y est.
c'est...
Sur la question des factions industrialistes.
Ah oui, justement, ouais. On va...
Quand est-ce qu'il y a cette alchimie qui se fait ?
Ouais. Donc, je reviens juste au point... Attendez. Alors... Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a... Voilà. Alors. Oui, alors effectivement, donc sur le plan économique, en Algérie, on a effectivement le lancement de plusieurs plans de développement économique et industriel dans une stratégie auto-centrée. Donc on donne la place aux industries lourdes du secteur public. Donc globalement, entre 63 et 86, on estime que l'État investit pour une part de 40% dans l'accumulation du capital, formation brute de capital fixe, et à près de 25% dans la distribution de revenus salariés. Donc on a vraiment une industrie publique. Ça, je vais fermer. Voilà. Voilà. Donc, le secteur privé, lui, il est promu, mais sans être réellement... Il est affecté à des industries légères. Mais, en fait, il y a une partition entre secteur public et secteur privé en termes de filières développées. Alors, sinon, les années 1980-91, on a... un political settlement en crise, en même temps qu'une crise économique, avec notamment le contre-choc pétrolier, et puis en fait une décroissance de la production industrielle entre 1986 et 93, même s'il y a des moments de hausse, légère hausse, entre 91 et 93. Donc on a un échec de la politique industrielle et de la restructuration du secteur public depuis les années 1980. On avait plusieurs tentatives, en fait. Et c'est ce que disait Fatiha, on avait une pause dans l'industrialisation dans les années 80. Alors après, donc, on a une période de réforme économique, d'instabilité politique en Algérie. Entre 88 et 91, donc ça c'est la périodisation en Algérie. Voilà, donc en fait on a eu une hostilité des conservateurs vis-à-vis du développement industriel, et on a des réformateurs autour du Premier ministre Mouloud Hamrouche pour en fait faire des réformes de structure pour ouvrir l'économie, davantage libéraliser l'économie. Donc on a des réformes entre 88 et 91, notamment qui mettent fin au monopole sur le commerce extérieur. On a en fait un changement de statut aussi des entreprises publiques. On a en fait toute une période de réforme économique, mais qui va être stoppée en 1991. Donc, avec ce qu'on appelle l'arrêt du processus électoral législatif et la guerre civile qui va s'annoncer le long des années 90. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la comparaison Venezuela-Algérie. Bon, ça montre que malgré la part importante du secteur privé au Venezuela, on a un déclin similaire du secteur industriel public et de l'industrie manufacturière dans les années 80-90. Donc ça peut être les points de similarité. Voilà, donc du côté du Venezuela, bon, ça a traduit l'échec d'une politique de substitution aux importations. Qu'est-ce qu'il y avait ? Alors sur la période 93-2013, entre comparaison entre pouvoir et industrie, donc Donc en Algérie, on a le second mandat du président Bouteflika qui s'ouvre en 2004. Dans un contexte économique plus favorable, avec la hausse des cours du pétrole. Voilà, il s'agit en fait d'effectuer une restructuration économique, ouvrir l'économie à l'international, appel aux investisseurs étrangers aussi dans cette période. Voilà, donc on cherche à développer les investissements tant publics que privés dans l'industrie. Alors, dans les années 2000, en fait, vous allez avoir une seconde stratégie industrielle qui va se... Il y a une tentative de relance par le ministre, l'ancien ministre de l'Industrie, Hamid Temar, qui a proposé, en fait, une stratégie de relance des filières industrielles. Mais cette stratégie ne va pas aboutir, puisqu'elle va faire l'objet de contestations au sein de la coalition au pouvoir, et notamment du Premier ministre de l'époque. Donc en 2013, la stratégie industrielle qui avait montré son nez en 2007 va être relancée sous le ministre de l'Industrie, Rahmani, en cherchant à fédérer plus de monde autour de... Enfin, qu'il y ait un consensus plus large pour cette nouvelle stratégie. Alors, cette stratégie, en fait, elle est mise en œuvre dans le sens où on cherche à restructurer le secteur public et ouvrir le secteur public aux investisseurs étrangers pour réinvestir, moderniser... et offrir des produits compétitifs à l'exportation. Donc ça, c'est le projet. Hein. Après, je n'ai pas dit que c'était... Après, donc, pour le Venezuela, la politique, toujours sur la même période, hein, 93-2013, la politique de libéralisation des années 90 a, tout comme en Algérie, réduit la part de l'industrie manufacturière dans le PIB et fragilisé les entreprises du secteur public. Voilà, donc tout comme l'Algérie, le Venezuela est dominé par les revenus d'exportation d'hydrocarbures. Bon, il connaît aussi, dans les années 2000, un retournement à la hausse des revenus d'exportation de produits hors hydrocarbures, alors ce qui n'est pas le cas pour l'Algérie. Sur la période 97-2007, donc les filières les plus dynamiques au Venezuela sont la chimie, les minéraux non métalliques, métaux de base et industrie de transformation métallique. Alors, les industries textiles et papier, peu intensives en capital, elles déclinent. Voilà, dans le secteur privé manufacturier, il a connu une phase de régression sur la période 97-2003, malgré une reprise. Voilà, globalement, donc, le secteur privé manufacturier, à la différence de l'Algérie, a investi dans les industries lourdes, exploitant des ressources naturelles minières. Donc ça, c'est une différence avec l'Algérie. Voilà, donc là, je vous montre un tableau avec les différentes comparaisons que j'ai cherché à faire entre l'Algérie et le Venezuela. Donc là, j'ai mis les similarités entre l'Algérie et le Venezuela, et là, les différences. En termes de système politique, en termes de stratégie de développement, pour la recherche de rente, dans le cadre de la théorie du political settlement, dans la structure des exportations et dans le rôle du secteur public et privé. Donc là, j'ai essayé de faire une comparaison croisée en essayant vraiment de trouver ce qu'il y a de commun entre les deux expériences de développement industriel. Alors ça, c'est donc pour le... C'est ce que j'ai expliqué. Oui. Ouais, alors sur le political settlement, on a une différence effectivement. Alors ça, c'est le régime bipartisan au Venezuela. En fait, on n'a pas, en Algérie, on n'a pas vraiment de changement de régime, mais au Venezuela, on a un changement, on a un basculement en fait entre le régime bipartite et la montée des partis populistes. Donc, je dirais jusqu'aux années 2000. Après, je ne parle pas de la période postérieure.
Voilà.
C'est ça.
C'est la ouais.
Du chavisme, ouais. C'est ça.
Donc là, ils sont pareils.
Alors, oui. Alors, justement, j'ai pas dit s'il y avait une. Après, donc, alors comparaison des political settlements. En fait, j'ai fait une comparaison avec des périodes. Donc là, j'ai essayé de montrer la périodisation du Venezuela. Alors, c'est celle de Jonathan D. John. Hein. Donc, elle peut être contestée, d'accord. Hein. Et ça, c'est la périodisation classique. Enfin, il n'y a pas de grand bouleversement sur les.
C'est la vôtre.
Oui, c'est la mienne, mais elle est quand même partagée par un grand nombre de chercheurs, quand même. C'est pas... Alors, vous voyez, donc, je reviens sur les différentes phases en essayant de décrire les périodes d'un point de vue de coalition au pouvoir. Donc, d'un côté, pacte démocratique, bipartisme, multipartisme compétitif, et factionnalisme et montée des régimes populistes pour le Venezuela. Et pour l'Algérie, donc, régime autoritaire décrit comme vulnérable. Ensuite, régime autoritaire présidentiel monopartisan, donc avec un parti. Régime autoritaire avec pluralisme, mais pluralisme faible. Non compétitif, c'est-à-dire que non compétitif entre en insider et outsider. Et régime autoritaire inclusif de partis d'opposition faible. C'est-à-dire que sur le plan de la distribution horizontale du pouvoir, on a une tentative d'inclusion pour rester en fait dominant sur la scène politique. Voilà, donc globalement, en conclusion. Donc ce que j'ai voulu comparer, l'expérience de développement économique et politique de l'Algérie et du Venezuela, il montre des similitudes au niveau de la période des années 1980, et notamment suite au contre-choc pétrolier. Donc dans les années 60-70, l'Algérie expérimente, tout comme le Venezuela, une stratégie de développement industriel auto-centrée. L'État a joué pour les deux pays un rôle majeur de coordination des politiques industrielles et de soutien au secteur public. Voilà, par contre, le Venezuela a disposé d'un secteur privé plus dynamique, qui a incité par des rentes à investir dans les filières ciblées par l'État, y compris les industries lourdes. Alors, des différences séparent les deux expériences. Le système politique algérien a été fondé sur un parti unique, le FLN, qui a exclu les partis outsiders. Et les années 90 voient en Algérie le maintien d'une coalition au pouvoir, malgré l'instauration du multipartisme. Voilà, montée des contestations partisanes et guerre civile dans les années 90. Voilà. L'absence de political statement de compétition politique empêche l'alternance du pouvoir, comme au Venezuela. Alors ensuite, on constate un déclin, bien sûr, du secteur manufacturier, comme je l'ai décrit, depuis les années 80. Donc ça, c'est une ressemblance avec l'Algérie. Voilà. Donc, par contre, au début des années 2000, on avait un retour vers une politique de substitution aux importations, même si elle a été de courte période, et de diversification des exportations. Voilà. Donc, on peut voir dans le political settlement vénézuélien, jusqu'aux années 2000, une capacité de renouvellement. Alors, c'est vrai que ça peut être étonnant de dire ça, mais avant 2010, en fait, on pouvait dire qu'il y avait une capacité de renouvellement de la classe politique et de l'accession au pouvoir de partis anti-système. Voilà, donc ça, en Algérie, le secteur privé lui dispose de réseaux clientélistes et de rentes auprès du pouvoir politique, mais pas d'initiatives suffisantes pour mener une politique de diversification industrielle. Le développement économique s'opère donc au Venezuela et en Algérie dans un contexte donné de distribution du pouvoir et d'institutions variées qui structurent des compromis politiques sur la base de groupes sociaux soutenant la coalition au pouvoir et bénéficiant de rentes. La confluence et divergence d'intérêts politiques et économiques produit donc des résultats variés selon le pays et la période et conditionne la réussite ou l'échec des politiques industrielles. Voilà. Merci.
J'ai une question de la guerre civile, ça implique quelque
92, ouais.
Ça finit officiellement en 99 quand il y a la Concorde
civile. Ouais, la Concorde civile. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on parle de décennies.
Ça ressemble à la période actuelle du Venezuela.
Ah oui, oui.
Mais ça ressemble beaucoup. Mais même ça commence avant la dégradation économique et de l'inflation, enfin, les niveaux de taux d'inflation et la rapidité avec la brutalité, la rapidité avec laquelle ça s'est fait. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est quand on reporte les mesures après. Ça serait intéressant de comparer la période actuelle avec la période en Algérie.
C'est ça.
À partir de 90, 88.
Je pense qu'il met 2010, parce que c'est un peu la fin à laquelle il y avait la possibilité des groupes dissidents du Chavisme.
Ah oui, oui, voilà.
Ouais. Apparaître. Et Chavez, une stratégie qui peut être morte après le résultat pour la démocratie en soi, c'est que il n'y a pas de dissidence au sein du service. On aurait pu avoir ça.
Oui.
Et cette possibilité-là a été complètement décapitée.
D'accord.
Mais et presque littéralement, c'est des factions militaires qui parlent pas, elles sont tous en prison. Et au niveau politique, c'est un peu, il tue ses enfants, en fait, successivement.
Ah oui.
Et donc il n'y a pas la possibilité qu'il y ait de nouveaux partis héritiers de Chavez, et qu'ils ne soient pas Chavez, qu'ils puissent faire un peu ça. C'est peut-être pour ça qu'il met 2010.
Ouais.
Ouais.
Ouais, donc après.
Parce que c'est un peu la date et que ça devient très fort.
C'est ça.
La révolution, après, ça devient fort avant, mais je veux dire, au niveau politique, ça c'est le moment où le groupe qui faisait partie de la coalition Chavez les quitte et ils sont.
D'accord. Ouais. Okay.
Tu interviens maintenant,
hein? Comme vous voulez.
Si vous préférez, on va faire la pause déjeuner maintenant et on est là tous les deux. Tu auras assez de temps dans une heure.
Comme vous voulez.
Je vais terminer aussi.
Je peux intervenir, je ne sais pas.
On fait une pause. Ouais, on va faire.
On mange après.
Ouais.